Vous êtes sur RTL.
8h. Place à l'info RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour 2 heures d'info, 2 heures d'actu avec vous. À mes côtés, Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous.
Et à la une, retourne en Afrique, les mots d'un député Rassemblement National. Séance interrompue à l'Assemblée.
Un mot prononcé pendant la prise de parole d'un élu insoumis. Le RN nie avoir voulu le viser. La gauche et le gouvernement dénoncent le vrai visage de l'extrême droite. À suivre aussi cette info RTL, Salah Abdeslam s'est marié en prison. Et puis, le pot de départ du tennisman français Gilles Simon battu cet après-midi à Bercy.
À 18h15, François Gémen, co-auteur du rapport du GIEC, sera notre invité. Il publie « L'écologie n'est pas un consensus. Le climat nous préoccupe comme jamais. Et pourtant, nous ne sommes pas prêts, dit-il, à bouleverser nos quotidiens. Dans une demi-heure, laissez-vous tenter dernière. Le Goncourt pour Brigitte Giraud, mais le jury s'est divisé, s'est fracturé. À suivre aussi les dessous de la vie d'un travailleur sans papier au moment où le gouvernement plaide pour un titre de séjour métier en tension. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'infos autrement avec Cyprien Sini et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme ?
Ce soir, alors que le salon du jeu vidéo cartonne à Paris, vous allez découvrir que la conception des jeux n'a désormais plus rien à envier aux super productions hollywoodiennes. Au menu également, Céline Dion qui annonce son grand retour et on vous apprendra les secrets des grilles de mots croisés.
À 19h15, on va refaire le monde et refaire l'incident raciste à l'Assemblée autour d'Aurélie Arbemont et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Encore agité et plus frais.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier.
Antoine Cavallero.
Et d'abord donc cet incident raciste à l'Assemblée, il est 17h, le député LFI Carlos Martins Bilongo prend la parole, il dénonce le drame de l'immigration clandestine. Au loin, on entend ces mots.
Allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens? Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat.
Je fais une suspension de séance de 5 minutes.
On distingue mal les mots. Que s'est-il dit exactement, Marie Mollet, vous qui êtes dans l'hémicycle pour RTL ?
Alors les mots exacts qui ont été prononcés, ce sont les suivants. Qu'il retourne en Afrique. Ces mots, ils ont été prononcés par un député RN de Gironde, Grégoire de Fournas, qui était assis à sa place pendant la question de son collègue. Aussitôt, les députés de la majorité de la NUP se sont levés d'indignation, estomaqués par une telle phrase prononcée sans complexe en plein hémicycle. La majorité, la gauche, qui crie dehors, dehors en direction du RN. Mais les autres élus du Rassemblement National ont fait bloc autour de leur député, Grégoire de Fournas.
J'ai répondu qu'il retourne en Afrique et cette phrase a été détournée par la France Insoumise qui cherche tous les prétextes à faire des interruptions de séance et des incidents de séance. Et ils ont compris que je parlais du député lui-même, ce qui était évidemment totalement faux. On est là dans une manipulation. J'ai pas d'excuse à prononcer vis-à-vis de ce député. Il n'y a pas de polémique, seulement dans l'esprit de la France Insoumise.
Quand il dit qu'il retourne en Afrique, l'élu RN, on est certain qu'il vise les migrants de manière générale ou est-ce qu'on peut se demander s'il ne visait pas l'élu insoumis, Marie ?
C'est toute la question, c'est le nœud du problème parce que Carlos Martins Bilongo est un homme noir et que lorsqu'un député RN l'interrompt pour dire qu'il retourne en Afrique, eh bien cela donne l'impression qu'il s'adresse directement aux députés. Pour Carlos Martins Bilongo, c'est clair, il a été personnellement victime de propos racistes au sein de l'hémicycle aujourd'hui.
Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. C'est un message qu'envoie à la nation. Il y a beaucoup de personnes qui ont ma couleur de peau ou qui sont basanées, qui ont des teints. Et à chaque fois, on leur renvoie leur couleur de peau, on leur renvoie à repartir en Afrique. C'est honteux, c'est complètement honteux et on voit la vraie face du Rassemblement National.
Mais cette version est réfutée, niée en bloc par le député RN Grégoire de Fournas qu'on entendait tout à l'heure, qui jure qu'il parlait des migrants en Méditerranée puisque c'était le sujet de la question posée par l'élu LFI. En tout cas, c'est un épisode cauchemardesque pour le RN qui n'aurait pas pu imaginer pire scénario pour réveiller la diabolisation.
Donc la séance a été interrompue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Marie ?
Eh bien, ce qui va se passer, c'est que les travaux de l'Assemblée sont suspendus jusqu'à la réunion d'un bureau extraordinaire, probablement demain vers 14h30. Le bureau doit trancher, décider de la sanction dont écopera le député RN. Cela peut aller jusqu'à l'exclusion pour plusieurs mois. C'est ce que demande en tout cas le groupe Renaissance, le groupe Insoumis. Mais il faut vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Une suspension des questions au gouvernement, c'est extrêmement rare. Si rare que la première ministre Elisabeth Borne elle-même a fait un détour aux quatre colonnes pour faire part de son indignation.
Vous avez tous entendu, comme moi, des propos inacceptables qui ont été tenus dans l'hémicycle. Au nom du gouvernement, je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Le bureau de l'Assemblée se réunira et je pense que la gravité mérite des sanctions exemplaires.
Et donc on connaîtra le sort, la sanction de ce député RN demain en début d'après-midi.
Merci Marie Mollet du service politique en direct de l'Assemblée nationale pour RTL.
RTL Soir.
18h05, on en vient à cette info RTL. Salah Abdeslam s'est marié cet été en prison.
Le seul survivant des commandos terroristes des attentats du 13 novembre. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Une union suivie de très près par les services de renseignement.
Oui, cela fait un moment que le renseignement pénitentiaire français avait noté que Salah Abdeslam envisageait de se marier. Toutes ces discussions sont évidemment écoutées. Mais le mariage s'est finalement fait cet été par téléphone, par l'intermédiaire de son père au bout du fil avec une inconnue. Un mariage religieux, donc pas un mariage civil, depuis la prison de Fleury-Mérogis, alors que le procès des attentats du 13 novembre était encore en cours. Très vite, la mariée est identifiée par les services de renseignement. Salah Abdeslam est finalement condamné à la prison à vie, la perpétuité incompressible. Depuis le mois de juillet, il a été transféré à la prison d'Ittre en Belgique, où un autre procès l'attend en décembre, celui des attentats de Bruxelles, prévu pour durer 10 mois.
Merci Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
Cette question maintenant, est-ce que le sud du Tarn aura de l'eau pour les fêtes à cause de la sécheresse? Écoutez bien, la ville de Mazamet et ses environs risquent de ne plus avoir une seule goutte au robinet.
45 000 personnes sont concernées, des habitants appelés à la plus grande des sobriétés. Patrick Hisson, vous êtes sur place pour RTL, c'est du jamais vu pour un mois de novembre.
Oui, le barrage du Pas des Bêtes qui alimente ce bassin de population est en grande souffrance, 4 mètres en dessous de son niveau normal. Jean-Louis Batut, le maire de Val-du-Rhinc, l'une des communes concernées, est aujourd'hui très inquiet.
Moi, je suis abasourdi par ce résultat, jamais vu. Moi, j'ai connu ce barrage depuis très longtemps. Hein. Aujourd'hui, on est confronté à une véritable catastrophe.
Le barrage n'a plus qu'un mois de réserve en eau, d'où cet appel à la population pour faire des économies et relayer l'alerte lancée par le préfet du Tarn, Vincent Collin. Et le maire de la Garrigue.
Le citoyen, quand il se lève le matin, il ne lit pas les arrêtés préfectoraux. Donc, on a souhaité aider cet arrêté préfectoral en communiquant dessus pour que chaque matin, quand un administré de notre territoire se lève, se dise « Ah, il faut que je fasse attention à l'eau ».
Et aujourd'hui, le pire est imaginé par Jean-Louis Batut.
Si ça continue comme ça, l'opportunité de voir les gens privés d'eau le soir du réveillon de Noël, malheureusement, elle est possible.
Pour s'en sortir, il faudrait que 150 à 200 millimètres de pluie viennent arroser le sud du Tarn d'ici la fin du mois.
Reportage de Patrick Hisson, correspondant RTL en Occitanie.
Et on vous rappelle que dans quelques minutes, François Gemen, co-auteur du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts pour le climat de l'ONU, sera notre invité dans RTL Soir. Petite pause dans ce journal et ensuite le pot de départ de Gilles Simon, l'une des stars du tennis français qui tire sa révérence à Bercy. À tout de suite.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec les adieux de Gilles Simon. La retraite avait été repoussée à 2 reprises ces derniers jours. Cette fois, c'est officiel. Notre Gilou national range sa raquette pour la dernière fois.
Battu cet après-midi au Masters 1000 de Bercy, défaite en 2-7, 6-1, 6-3 contre le Canadien Félix Auger-Aliassime que vous avez suivi pour RTL. Isabelle Langer, bonsoir.
Bonsoir.
Et beaucoup d'émotions sur le court de l'Accor Arena de Paris.
Ah oui, je peux vous dire, les larmes ont coulé lors de la cérémonie en l'honneur de Gilles Simon. Le Niçois a salué la fédération qui lui a offert une invitation pour pouvoir effectuer cette dernière danse. Le public, ses entraîneurs et puis sa famille, et notamment ses deux fils, Timothée et Valentin, qui vont enfin pouvoir profiter de leur papa. Et puis le pudique Gilou a rendu hommage à sa femme Karine.
T'aurais dû être sur le terrain, mais tu te caches. Merci pour tout. Je sais à quel point tout ça a été difficile pour toi. Je suis tellement heureux de te dire que c'est terminé maintenant. Tu vas être là. Je te te remercie de m'avoir laissé jouer aussi longtemps, de m'avoir laissé vivre ma passion aussi longtemps. Voilà, je t'aime de tout mon cœur et merci pour tout.
Une cérémonie au cours de laquelle ses potes de toujours, mon fils et Tsonga, ont aussi laissé des messages et déclamé leur amour. On a ainsi appris qu'il le surnommait notamment CNN parce qu'il ne la ferme jamais. Les professeurs et sans conteste le petit nom qui lui colle le plus à la peau. Nul doute d'ailleurs que celui qui a été 6e mondial, remporté 14 tournois et qui passera lundi prochain son brevet d'état sera un futur grand entraîneur.
Merci Isabelle Langer, à Bercy pour RTL.
Et puis le foot, la soirée européenne du jeudi en Ligue Europe. Nantes doit battre l'Olympiakos pour espérer voir les 16e. Coup d'envoi à 18h45. Même heure, Monaco reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade. À 21h, Rennes reçoit l'Arnaca, les Bretons déjà qualifiés. Et puis en Ligue Europe conférence, Nice se déplace à Cologne.
C'était à la mi-journée, le visage de Brigitte Giraud à la fenêtre du restaurant Drouot à Paris. L'écrivaine décroche le Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires. Pour vivre vite.
Après 14 tours de table, un scrutin très serré face à Giuliano da Empoli, il a fallu la voix du président qui compte double. Brigitte Giraud est la 13e autrice sacrée en 120 ans de Goncourt, un chiffre sur lequel ne s'attarde pas la lauréate.
Alors je ne réagis pas forcément en tant que alors, homme, femme. Pour moi, nous sommes tous des êtres humains en train d'essayer de travailler l'écriture. Après, c'est vrai que les femmes étaient moins représentées, donc cela est très agréable. Mais ce n'est pas en tant que femme vraiment que je reçois le prix, c'est en tant que personne qui travaille la littérature depuis de longues années.
Brigitte Giraud, lauréate du Goncourt pour vivre vite aux éditions Flammarion. Et Bernard Leu va nous raconter ce sacre. Le jury s'est fracturé aujourd'hui dans Laissez-vous tenter dernière dans une vingtaine de minutes. À noter que Simon Liberati remporte lui le prix Renaudot pour performance. Merci pour votre performance, cher Antoine. On vous retrouve.
Et à tout à l'heure.
Tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, dites-nous tout.
Encore un temps bien agité, Julien, avec des averses sur l'ensemble du pays, du vent quasiment partout. Alors le matin, ça restera sec sur la façade est et le sud-est, et même ensoleillé entre la Côte d'Azur et la Corse, mais avec beaucoup de vent en Corse, des averses partout ailleurs, et la Corse où le soleil va dominer le matin, mais dans l'après-midi, il y aura des averses, voire des averses orageuses. Sur le reste du pays, ça ira mieux sur la façade ouest. On va retrouver un peu d'éclaircie avec un temps un peu plus sec, vraiment sur la façade ouest. Et ailleurs, toujours beaucoup de nuages, encore des averses localement orageuses, notamment vers le Massif central et la Bourgogne. Et on a de la neige en moyenne montagne dès 1500 mètres. On peut même d'ici 1800 mètres avoir une bonne quantité de neige, 30 cm possible en hauteur. En tout cas, sur les Pyrénées, le matin, il neigera un petit peu moins l'après-midi, mais quoi qu'il en soit, ça restera assez couvert et pas mal de précipitations avec des températures qui baissent, mais qui sont soit proches des normales, soit légèrement en dessous. De 9 à Aurillac, à 23 à Bastia, 11 à Grenoble, 13 à Lille, 14 à Paris, 16 à Biarritz, 17 à Perpignan et 18 à Marseille.
Merci Peggy. Petite pause et ensuite François Gémen sera notre invité. Il est co-auteur du dernier rapport alarmant du GIEC. Il publie l'écologie n'est pas un consensus. Avec un constat, nous sommes préoccupés comme jamais par le climat, mais nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier pour sauver la planète visiblement. A tout de suite sur RTL.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h17, bonne fin de journée, RTL Soir toujours avec vous. Et notre invité ce soir est un chercheur, co-auteur du dernier rapport du GIEC, les experts du climat pour l'ONU. Bonsoir François Gémen.
Bonsoir Julien Cellier.
Vous publiez « L'écologie n'est pas un consensus » chez Fayard, 120 pages avec un constat assez implacable. Jamais nous n'avons été aussi inquiets pour la planète et pourtant collectivement, nous ne votons pas en quelque sorte pour la sauver. Vous avez cru à cette voie politique, à ce changement par les urnes. Vous avez été conseiller du candidat vert Yannick Jadot. Mais aujourd'hui, vous écrivez dans le livre « Soutenir l'écologie politique, c'est soutenir le PSG en Ligue des Champions. Chaque année, on se dit « c'est la bonne ». Chaque année, on est déçu. » À ce point-là.
Exactement. Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, force est de constater que ce soit en France ou partout en Europe, l'écologie politique reste politiquement assez minoritaire. Même quand elle fait des bons, voire des très bons scores, ça reste un électeur sur 7, un électeur sur 6. Alors qu'on pourrait se dire, alors que 85% des Français se disent tracassés par le changement climatique, on pourrait se dire, ils vont voter massivement pour le climat, et c'est ça qui va déterminer leur vote, et ça va être un élément essentiel dans nos démocraties. Et pourtant, ça reste malgré tout assez accessoire.
Vous dites en substance, seules les classes aisées aujourd'hui peuvent se permettre de voter écolo, de voter pour des politiques qui vont impliquer des sacrifices.
C'est ça. C'est-à-dire que la thèse que je défends dans le livre, c'est que les gens sont préoccupés par le changement climatique, mais le voient encore un peu comme une sorte de cause, comme ils pourraient être sensibles à la faim dans le monde ou aux droits humains, mais qu'ils ont parfois l'impression que ça ne touche pas directement leurs intérêts. Et forcément, lorsqu'ils vont voter, ils vont voter pour un candidat, pour un programme qui va, pensent-ils, améliorer leur vie au cours du mandat. Et le problème, c'est que la lutte contre le changement climatique, eh bien, va comporter un décalage à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que les actions qu'on va poser ici, maintenant, à Paris, eh bien, elles vont se faire ressentir dans 20 ans pour la prochaine génération. Elles vont se faire ressentir dans les pays les plus directement touchés, au Bangladesh, en Éthiopie, dans les petites îles. Mais donc, on ne peut pas espérer tirer un bénéfice direct de notre action. Et de la même manière, si on n'agit pas, on sait que les conséquences seront subies aussi, pas directement par nous-mêmes, mais surtout par les autres.
Comme c'est lointain, on n'est pas prêt à changer de voiture, à rouler moins vite, à payer l'essence plus cher, c'est ça ?
Regardez par exemple une petite mesure, une mesurette que le gouvernement envisage de mettre en place, de faire baisser la limitation de vitesse sur les autoroutes de 130 à 110. 110, ça
reste
une visite. C'est quelque chose qui permet d'économiser du carburant, qui n'allonge pas tellement le temps de trajet. Regardez la levée de bouclier que cela provoque. C'est-à-dire que manifestement, il y a une série de choses, et je ne juge pas, mais il y a une série de choses auxquelles nous ne sommes pas prêts. Ouais.
L'autre impasse, ce que vous écrivez dans le livre, c'est notre vision franco-française, d'après vous, en tout cas de notre monde politique. Vous écrivez « Notre avenir se joue davantage à Lagos ou au Caire », mais c'est vrai que certains auditeurs qui nous écoutent se disent peut-être « Mais pourquoi moi me priver de ma voiture thermique alors que la production des centrales à charbon en Chine a augmenté de 11% ces derniers mois. »
Et je comprends qu'on puisse se faire cette réflexion. C'est relativement légitime. Et on va voir autour de nous, on va se dire, mais à quoi est-ce que ça sert que la France fasse un effort si la Chine ouvre 2000 centrales à charbon par seconde ? J'exagère, hein, c'est moins que ça. À quoi est-ce que ça sert que mon entreprise fasse un effort si le PSG fait Paris-Nantes en jet privé ? On va trouver autour de nous dans l'actualité mille et une raisons de nous décourager et de nous dire que ce qu'on fait finalement est insignifiant. Mais ça, c'est parce qu'on considère le changement climatique comme un problème binaire. On va se dire c'est pile ou face, c'est gagné ou perdu. Et donc on est insignifiant par rapport aux forces contraires.
Alors qu'on n'a jamais totalement gagné, ni jamais totalement perdu.
On n'a jamais totalement perdu, ni gagné. C'est jamais véritablement trop tard parce que ça un problème graduel. Chaque dixième de degré va faire une énorme différence. Ça veut dire que chaque tonne de CO2 va faire une différence. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Tout va compter.
Donc ça, c'est le constat. Pour vous, si on veut faire bouger les choses maintenant, nous manquons de temps pour convaincre la majorité. Donc vous appelez à soutenir des minorités qui sont actives, persuadées. Mais vous parlez de qui exactement ? Qui sont ces minorités ? Des entreprises, des simples citoyens, des activistes ?
Un peu tout ça. C'est-à-dire, ce sont des groupes de gens qui, dans leur entreprise, dans leur collectivité ou dans la société civile, vont se battre pour faire changer le groupe dans lequel ils sont. Et par ce qu'on appelle une influence minoritaire en sociologie, qui vont parvenir à transformer les choses et embarquer la majorité dans le changement.
Alors, justement, par exemple, les actions d'activistes, bloquer la N118, jeter de la soupe sur un tableau, est-ce que ces coups d'éclat servent la cause ?
Honnêtement, je ne suis pas sûr. Parce que je ne suis pas sûr que les symboles, que les messages soient compris de la population. Lorsqu'on jette de la soupe sur un tableau, la plupart des gens vont voir simplement une attaque contre une œuvre d'art et vont se dire « mais c'est quoi le rapport entre Van Gogh et le changement climatique ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ?» Alors quand on les écoute, on se dit effectivement c'est pour initier une réflexion sur la valeur sacrée qu'on donne à l'art, à quoi est-ce qu'on est le plus attaché, à l'art ou à la vie. Mais je suis désolé de le dire, c'est un peu une conversation pour critique d'art, ça.
Ouais. Donc ce qu'il ne faut pas, ce sont des actions qui viendraient fracturer la société, une société où boucher et vegan se feraient face, ça ne marchera pas.
Moi je suis un peu inquiet, effectivement, d'une société divisée en deux camps où on aurait d'un côté les gentils et de l'autre les méchants et où finalement on ferait pas tellement la lutte contre le changement climatique mais on lutterait avant tout contre l'autre camp. Il faut reconnaître que nous faisons tous d'une certaine manière partie du camp des méchants. Dès l'instant où on est dans un pays industrialisé, ça veut dire qu'on porte, même malgré nous, malgré tous les efforts qu'on fait, une responsabilité historique considérable. Et l'enjeu c'est de voir comment on met la société en mouvement pour réduire notre empreinte carbone collective.
Mais pourtant, parfois, vous-même, vous n'êtes pas toujours tendre. Vous avez par exemple taclé aujourd'hui l'influenceuse Lena Situations, qui est une star des ados en France, qui a ses paires de chaussures maintenant vendues dans les boutiques Adidas, et vous dénoncez un idéal consumériste à coups de pubs grassement rémunérés. Vous ne l'épargnez pas, là.
Non, et quelque part, j'ai pu constater qu'elle avait beaucoup, beaucoup de fans sur Internet. Très clairement, pour moi, quelqu'un comme Léna Situation, comme les influenceurs, les influenceuses, représente un peu l'étape ultime du capitalisme. C'est-à-dire qu'on va vendre de l'influence pour fourguer des produits aux jeunes. Et effectivement, dans son pose d'aujourd'hui, elle pose avec des paires de baskets Adidas. Et quelque part, elle est rémunérée pour l'influence qu'elle exerce auprès des autres. Et le fait que ce truc devienne une sorte de modèle économique en dit beaucoup, au fond, sur l'évolution de notre société et sur, quelque part, le surconsumérisme et cette vacuité du surconsumérisme.
Dans l'écologie politique, il y a aujourd'hui des élus qui sont adeptes des coups d'éclat, qui provoquent le débat, notamment Sandrine Rousseau. Là aussi, vous n'êtes pas tendre avec la députée. Vous dites qu'elle se fiche du climat et qu'elle ne maîtrise pas ses dossiers. Vous l'avez constaté.
C'est-à-dire qu'elle a très intelligemment identifier un créneau électoral porteur sur lequel elle allait pouvoir capitaliser politiquement et sur lequel elle allait pouvoir afficher une très forte radicalité. Et c'est effectivement ça qui l'a fait connaître aux yeux du grand public et qui aujourd'hui la transforme en une sorte d'égérie des mouvements les plus radicaux. Mais ce qui me tracasse, c'est que chez elle, en tout cas, c'est véritablement une posture, c'est une façade. Et j'ai pu observer que les questions de climat et de biodiversité, en fait, ça l'intéressait pas fondamentalement. C'est pas son sujet. Elle a juste identifié un segment du marché électoral qui était porteur aujourd'hui.
Il y avait des députés écolos à la manifestation anti-méga bassine agricole dans les Deux-Sèvres le week-end dernier. 4000 personnes environ, affrontement avec les forces de l'ordre dans les Deux-Sèvres. Le ministre Gérald Darmanin parle d'éco-terrorisme. Vous encouragez ce type de mobilisation? Ce sont ces minorités dont vous faites parler qui font bouger les choses?
Certainement pas si elles sont violentes. Et là, je pense que ça ne va pas faire bouger les choses et que même au contraire, ça risque de renforcer le soutien public aux bassines parce que ces événements violents vont choquer une bonne partie de la population, y compris des gens qui sont relativement indécis sur le sujet des bassines et qui vont se dire « je ne veux pas du tout être associé à un mouvement qui soit aussi violent ». Je pense que la contestation légitime contre les bassines aurait beaucoup plus de poids si ça avait été une marche des familles, par exemple. Et très clairement, ces mouvements violents vont détacher une partie de la population des combats qui sont menés dans lesquels elle ne va pas du tout se retrouver.
Un mot de la COP27, ce sera la semaine prochaine. Là aussi, vous ne semblez plus y croire. Vous dites que les COP sont des chambres d'enregistrement.
Il faut, je pense, réaliser que la COP, c'est l'équivalent d'une assemblée générale de copropriétaires. Et que si les copropriétaires ne veulent pas rénover l'ascenseur, l'Assemblée Générale n'a pas le pouvoir de décider à elle seule de la rénovation de l'ascenseur. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on attend trop des COP. Chaque année, on se dit, est-ce que c'est la COP de la dernière chance? La COP 26, COP 27, va-t-elle sauver le climat? Les COP n'ont pas ce pouvoir. Ce sont des chambres d'enregistrement, des actions, des efforts menés par les gouvernements. Si les gouvernements arrivent les mains vides, forcément, le résultat sera décevant. Et ce n'est pas la COP qu'il faut blâmer en elle-même. Ce sont les gouvernements qui y arrivent les mains vides.
Pour terminer, François Gémen, je voudrais aussi votre avis sur un autre sujet, parce que vous êtes aussi spécialiste des migrations, et le gouvernement plaide pour une immigration choisie, notamment un titre de séjour pour métiers en tension. On a vu que ça avait électrisé l'Assemblée nationale cet après-midi. Être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, dit le gouvernement. La formule est simple, est-ce que c'est aussi simple que ça?
C'est pas aussi simple que ça. Dès qu'on veut parler sérieusement d'immigration, il faut faire son deuil de la simplicité et de tous les simplismes. Et moi, je dénonce un peu cette utilisation utilitariste des migrants qu'on va utiliser comme de la main-d'œuvre corvéable à souhait et puis qu'on va renvoyer dès lors que le métier ne serait plus en tension. Alors, bien sûr, il faut une immigration de travail. Bien sûr, la France, l'économie française a besoin de travailleurs étrangers, mais vous ne pouvez pas utiliser les gens et puis les renvoyer lorsque vous n'en avez plus besoin. Humainement, ce n'est pas possible.
On a l'impression que ce débat, surtout, on ne peut pas l'avoir de manière sereine, sans dérapage. On l'a encore vu à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous le regrettez, j'imagine.
C'est absolument dramatique. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée, donc pour les auditeurs qui ne seraient pas encore au courant, un député du Rassemblement national a crié qu'il retourne chez eux lorsque un député de LFI posait une question au gouvernement au sujet précisément des migrations venues d'Afrique via la Méditerranée. Cet incident, à l'évidence, nous révèle que ce racisme est encore très présent dans la société. Et aujourd'hui, je me désole que cette question, qui est une transformation fondamentale de nos sociétés, ne puisse pas être abordée sereinement sur la base de faits, de chiffres et d'arguments rationnels.
Merci François Gémen, co-auteur du dernier rapport du GIEC, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Vous publiez « L'écologie n'est pas un consensus » chez Fayard. Merci.
Merci à vous.
Petite pause dans RTL Soir et tiens justement ensuite dans vos dessous de l'actu, les dessous de la vie d'un travailleur sans papier. On en a rencontré un pour RTL. Et puis laissez-vous tenter dernière le jury du Goncourt irréconciliable aujourd'hui. À tout de suite.
RTL Soir.
Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
18h31, bonne fin de journée.
18h, 19h15,
RTL Soir.
Julien Cellier. Vous étonne, vous informe aussi. Voici les trois titres de l'actu à retenir ce soir, Antoine.
Cet incident raciste à l'Assemblée, la séance suspendue après ces mots du député RN Grégoire de Fournasse, qu'il retourne en Afrique. Lui assure qu'il ne parlait pas de son collègue La France Insoumise, alors à la tribune, mais d'un bateau passeur de migrants. Pour LFI, l'extrême droite montre son vrai visage. Le racisme n'a pas sa place dans l'hémicycle, dénonce Elisabeth Borne. Dans l'actualité également, cette info RTL, Salah Abdeslam s'est marié en prison, c'était l'été dernier. Et puis les adieux de Gilles Simon, battu cet après-midi à Bercy, c'était le dernier match de sa carrière.
Merci Antoine. Tendance météo pour demain, Peggy.
Encore un temps agité avec des averses, beaucoup de vent, de la neige en moyenne montagne et des températures de saison donc plus fraîches.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant du travail des sans-papiers. Hier, le gouvernement a plaidé pour une immigration choisie, un titre de séjour métier en tension. Objectif affiché, mettre fin à une hypocrisie. Hein, ce sont les mots à Bercy, puisque jusqu'à quelques dizaines de milliers de personnes travaillent déjà en France, d'après les ministères, sans y être autorisés. Bonsoir Anaïs Bouissou.
Bonsoir.
Vous avez justement rencontré pour RTL un de ces employés venus en France pour gagner sa vie.
Oui, je rencontre Mamadou, 34 ans, dans une rue parisienne. Il vient de Côte d'Ivoire et il est chauffeur-livreur.
On est dans la rue, on marche devant le commissariat. Et
Ça vous fait peur de passer devant le commissariat à chaque fois ?
Chaque fois que tu aperçois le commissariat ou un regroupement de policiers, donc je vais contrôler comme je le fais tout le temps. C'est mon quotidien.
Et le matin même, dans le métro, il a fait demi-tour pour éviter un contrôle. Il s'en sort comme ça depuis 3 ans. Il a un logement, un pass Navigo pour les transports et un travail à temps plein payé 1500 euros par mois.
Il fait comment pour avoir un travail officiel ?
Il a fait faire de faux papiers.
C'est illégal, mais je l'ai fait pour survivre. Ça, c'est ma fausse pièce d'identité.
Ça, c'est une carte d'identité belge.
C'est une carte d'identité belge.
Et vous avez mis un faux prénom et un faux nom.
Ouais.
Là, c'est votre vraie photo.
Ouais. Il faut le faire proprement pour ne pas éveiller les soupçons au moment de l'embauche.
Votre vraie date de naissance ?
Ma vraie date de naissance, ouais. C'est dans le seul but d'avoir un emploi. Si on pouvait me déclarer avec le passeport de mon pays d'origine, je ne ferais jamais de faux documents. D'autant plus que tu payes de l'argent pour avoir ces faux documents.
Et vous avez la même chose pour la carte d'identité, pour la carte vitale ?
Je vais vous montrer l'attestation de la carte vitale. Elle est juste là.
Ah oui, donc là, c'est une fausse attestation de carte vitale.
Ouais.
Et vous avez payé combien pour avoir ces faux documents ?
300 euros.
300 euros ?
Ouais. Une fois que tu les as, tu commences à postuler.
C'est édifiant et l'employeur n'y a vu que du feu.
Oui, alors, soit il n'a rien vu, soit plus probablement le patron du chauffeur-livreur est tellement en manque de main-d'œuvre qu'il a préféré ne rien voir. Toujours est-il que dans un mois, Mamadou fera une demande officielle de régularisation.
Je voudrais prétendre à une régularisation. Il te faut 3 ans de présence, avoir 24 fiches de paye. Là, je suis à 23 fiches de paye.
Et quand vous allez faire la demande, ça va se voir, ce faux nom ?
Oui, ça va se voir, ça peut passer. Sinon, c'est le début d'une autre galère.
Par autre galère, Mamadou entend un risque d'obligation de quitter le territoire. Ça, c'est son pire cauchemar. En Côte d'Ivoire, il était diplômé dans les ressources humaines. S'il obtient sa régularisation, il retournera à l'université pour obtenir un master français.
Les dessous de la vie d'un travailleur sans papier, document RTL recueilli ce soir par Anaïs Bouissou. Merci beaucoup Anaïs.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et donc le jury du prix Goncourt a récompensé aujourd'hui Brigitte Giraud pour son roman Vivre vite. Bonsoir Bernard Lehu.
Bonsoir Julien.
Vous nous Bonsoir aviez dit ici même le plus grand bien de ce roman dès sa sortie il y a 2 mois. Bien vu, bravo. Rappelez-nous ce que raconte Vivre vite.
Eh bien Brigitte Giraud tente de comprendre 20 ans après si la mort de son mari Claude dans un accident de moto aurait pu être évitée. D'un drame intime, elle fait un livre magnifique sur la consolation, les premiers mots de la lauréate à son arrivée tout à l'heure chez Drouan.
Je pense à mon fils,
Je pense à Claude, bien sûr, mais je pense à la littérature et à ce que les mots permettent de... Peut-être que les mots aident à conjurer le sort, je ne sais pas. Je pense que, finalement, je crois que c'est un livre d'amour.
Parmi les jurés du Goncourt, fervent soutien du livre de Brigitte Giraud, Philippe Claudel est le président du jury, Didier Decoin.
Il interroge le destin. C'est un livre qui part d'une tragédie effroyable et qui pose la question pourquoi ? Quels sont les rouages de l'horloge fatale qui se sont imbriqués les uns dans les autres pour provoquer cette chose-là ?
Ce qui m'a beaucoup touché dans ce livre-là, c'est que c'est un livre doux. C'est pas un livre triste. C'est un livre de vie. C'est un livre qui peut parler à chacun d'entre nous. C'est un livre sensible, avec des mots qui en apparence sont simples, mais qui nous touchent profondément. Et moi qui l'ai lu au mois de juin, il est toujours en moi. C'est un livre qui dure.
Et Brigitte Giraud est la 13e femme récompensée en 120 ans de prix Goncourt.
Un choix qui ravissait évidemment la jurée Françoise Chanternagor.
Convenez que, qu'avoir en 120 ans seulement 12 femmes couronnées, maintenant 13, bah, c'est pas excessif, hein. On peut pas dire. Bien sûr, c'est important pour nous.
Cela dit, c'est un choix qui s'est fait dans la douleur, Bernard.
Il a fallu attendre le 14e tour de scrutin et la voix du président Decoin, qui compte double dans ce cas-là, pour départager les 10 membres de l'Académie Goncourt, divisé entre le livre de Brigitte Giraud et Le Mage du Kremlin, le roman de Giuliano D'Ampoli consacré à l'ascension vers le pouvoir de Poutine et qui faisait figure de favori jusqu'à ce qu'il reçoive le prix de l'Académie française la semaine dernière. Un désaccord profond que n'ont pas hésité à exprimer publiquement au micro de RTL deux des jurés et aussi voisins de table, Paul Constant et Tahar Benjelloun.
La bienséance voudrait dire que je suis solidaire et tout. Je ne suis pas du tout solidaire cette fois-ci. Je suis vraiment en colère parce que nous avons fait une grave erreur. Le livre Le Mage du Kremlin est un grand livre qui nous éclaire sur l'époque. Et là, on s'est arrêté à un livre qui n'est pas mal. Moi, j'ai rien contre Brigitte Giraud, mais c'est un petit livre. Il n'y a pas d'écriture.
Vous savez qu'on est très amis avec Tahar. Là, on est un peu en froid, mais...
Non, moi, je suis chaud. Bon, je n'ai pas réussi à te convaincre, mais c'est pas grave.
Il ne me laissera pas parler. On n'est pas d'accord, mais on s'aime. Voilà, mais enfin, il me tourne le dos.
Alors, bah, il fait fi, eh oui, donc dans la salle à manger de Drouan, mais ça n'enlève rien à la qualité du prix Goncourt de Brigitte Giraud pour Vivre vite, publié chez Flammarion.
Et le Renaudot a été attribué dans le calme, lui, à Simon Liberati pour son roman Performance chez Grasset. Merci beaucoup, Bernard. Petite pause et puis on va défaire le monde dans RTL Soir. 20 minutes d'infos différemment et culture, toujours avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. Bonsoir, les amis.
Bonsoir à tous.
Parce qu'on va défaire les jeux vidéo, c'est la Paris Games Week, le salon de référence. En ce moment, un jeu vidéo, ça se construit comment, ça se finance comment, on vous explique tout. C'est quasiment Hollywood, vous allez l'entendre.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.